Si, ça peut peut-être vous surprendre, un laïc, Garcia Moreno, un avocat, un père de famille, un homme d'État qui a été assassiné en 1875 et qui était un catholique profondément convaincu que pour rétablir la paix et la prospérité des peuples d'Amérique du Sud, la seule façon, c'était de mettre le Christ au cœur de son action politique. C'était pour le moins surprenant à l'époque, d'autant plus que dans ces pays, les gouvernements changeaient constamment. Et lui, il est resté président pendant 15 ans quand même, puis il a fait de l'Équateur un pays remarquable. Quand il est mort, le pays était en pleine prospérité, la dette avait été payée, les routes étaient construites, l'université fonctionnait bien, etc. Parce qu'il avait mis la justice, l'Évangile, le Christ, et le Christ était vraiment incarné dans sa vie et incarné dans l'Équateur. L'Équateur, c'est un pays qui est, disons, le plus petit des États de l'Amérique du Sud. Il est 6 fois moins grand que le Québec, mais il est quand même, il équivaut à la moitié de la France. Hein. L'Équateur était plus grand que ça à l'époque de Garcia Moreno. Il a perdu des plumes, c'est pour ça. Il faisait 850 000 km² dans le temps, puis il n'en fait plus que 250 000 km². Au nord, il y a la Colombie, je vous le situe, donc au nord, la Colombie, à l'est, là, à droite, le Brésil, au sud, il y a le Pérou, puis à l'ouest, ben, c'est l'océan Pacifique. Alors, il faut visiter l'Équateur, paraît-il. Des amis qui y sont allés m'ont dit que c'était extraordinaire. Il y a une espèce d'opulence dans la nature. C'est splendide, comme dans certains autres pays d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale. Hein. Et on dirait que Dieu y a répandu là une exubérance dans son imagination. C'est phénoménal. Sur le plan de la végétation, des animaux, tout ça, c'est absolument merveilleux. Or, c'est dans ce très beau pays qu'est né Garcia Moreno. Guayaquil. Guayaquil, c'est la deuxième ville en importance, elle est au bord de l'océan. Il est né le 24 décembre 1821, c'est son anniversaire de naissance aujourd'hui. Il a été assassiné au mois d'août. On peut pas faire l'émission au mois d'août, mais je fête sa naissance. Il est né le 24 décembre et il a voulu imiter le Christ qui est né aussi le 24-25 décembre. Selon la date que l'on a fixée. Pour la naissance de Jésus, c'est une date fixée. Il reçoit ce garçon au baptême le nom de Gabriel. Son père, Don Pedro Garcia Gomez, de Villaverde dans la vieille Castille, un Espagnol, il s'est senti attiré par le Nouveau Monde pour y tenter fortune, puis il y réussit à merveille. Puis au bout de quelques années, il est devenu un des hommes les plus en vue du commerce de l'Équateur. Son père épouse la señora Doña Mercedes Moreno. C'est de là que vient son nom au président de l'Équateur, Garcia, qui est le nom de son père, et Moreno, le nom de sa mère, comme on fait chez ces gens-là. Ils portent le nom de leur père et ensuite le nom de leur mère. Donc, sa mère s'appelait Mercedes Moreno. C'est fille d'un des personnages les plus considérables de la municipalité de Guayaquil, où il est né. Dieu leur accorde de nombreuses familles, dont le petit Gabriel, notre Garcia Moreno. Il est le 8e, le dernier enfant. Il ressemble à sa mère pour autant qu'un enfant blond peut ressembler à une jeune femme brune. Oui, il était blond, c'est rare. Et Gabriel, bien timide, craintif, voue à son père une obéissance aveugle. C'est assez spécial, son éducation. Il paraît que la peur le paralysait. Il avait un grand respect pour son père, une grande admiration, puis son obéissance était forte. Et il a toujours fait ce que lui demandait son père. Et un jour qu'un orage épouvantable grondait au-dessus de la ville, et que ce petit Gabriel, il avait peur de voir les éclairs, puis d'entendre le roulement sourd du tonnerre, il se cachait le visage dans les jupes de sa mère. Mais Don Pedro, son père, le saisit par la main, puis il le conduit sur le balcon extérieur de la maison. Puis il a fermé la porte. Puis il a laissé son fils comme ça jusqu'à ce que l'ouragan soit passé. Ça me rappelle des beaux souvenirs avec mon père qui m'avait amené comme ça sur le balcon. sur la rue d'Avard à Outremont, puis pendant un orage en pleine nuit, alors que j'avais peur, il s'était assis avec moi, lui. Mon père était plus gentil. Il s'était assis avec moi dehors, puis bien, même s'il pleuvait, puis les orages, il me montrait combien tout ça était beau. C'est un grand souvenir que j'ai de mon père, ça. Puis il n'y a pas que l'orage qui le fait trembler, ce petit Gabriel. La mort, surtout, lui cause de vives frayeurs, et pour le guérir de cette crainte, qui est absolument infantile, Don Pedro se rend un jour à la maison mortuaire d'un de ses amis en compagnie de son fils, au salon mortuaire. Salon funéraire, comme on dit aujourd'hui. Et puis, arrivé devant le corps, étendu sur la table, face à ce visage livide, là, puis glacé, il n'y avait rien qu'un cierge qui l'éclairait. Le père et l'enfant se sont recueillis un instant, comme des chrétiens. Puis ils se retirent pour présenter leurs condoléances à la famille. Mais à entendre les sanglots, puis à subir l'atmosphère glaciale, Gabriel se met à trembler de tous ses membres. Alors son père lui demande d'aller chercher un cierge. Et puis, de s'approcher. Alors, ça l'a aidé à se ressaisir. Et le petit Gabriel a cessé de trembler. Ce jour-là, dit-il, il a enregistré, c'est lui-même qui nous le dit, une de ses plus belles et plus éclatantes victoires. Et voilà comment un père enseigne à son fils l'art de se vaincre lui-même. Cet art, bien, Gabriel va l'exercer toute sa vie, car toute sa vie, il va avoir à se dominer et à se vaincre. Cette trempe, de ce courage, cette audace qu'il va déployer pour braver tous les obstacles, on peut dire qu'il les doit à son père, qui prêchait plus par l'exemple que par la parole. On peut peut-être trouver un peu tyrannique cette façon d'éduquer un enfant. Mais cependant, Gabriel Garcia Moreno, auquel cette forme d'éducation a été appliquée, ne s'en est jamais plaint. Au contraire, écoutez bien ce qu'il disait, il en faisait l'éloge de son père. L'éloge de celui, dit-il, qui a su, dès mon plus jeune âge, forger mon âme pour surmonter les épreuves et les adversités inhérentes à toute vie humaine. Mais en 1830, la mort vient ravir à la famille Garcia Moreno, son unique soutien, le père Don Pedro Garcia Gomez meurt, et Gabriel n'a que 9 ans. 9 ans. C'est bien jeune pour perdre son père. Et l'avenir, mais sa mère, quand même, veut faire de son fils avant tout un chrétien. Et quelque temps après la mort de son mari, elle a une bonne idée. Elle confie son enfant à un religieux de Notre-Dame de la Merci. C'est un ordre assez populaire en Espagne et en Amérique du Sud. Et qui s'appelle le père Bettencourt. Un nom bien français, mais pourtant c'est un nom qu'on retrouve chez les Espagnols. Et durant 5 années, le petit Gabriel assimile les leçons de ce précepteur qui est courageux. Et en septembre 1836, le jeune Garcia Moreno quitte donc sa famille, son maître, pour aller suivre les cours de l'université de Quito, la principale ville de l'Équateur, c'est l'antique capitale des Incas. Sa soif insatiable de tout savoir, de tout comprendre, de tout pénétrer, le fait se lancer avec une fougue et une passion surprenante dans l'étude de la littérature, de l'histoire, de la philosophie, de la poésie, de l'éloquence, des mathématiques et des sciences naturelles, y compris la chimie. En guise de repos, dans ses moments de loisir, il apprend des langues étrangères. Il a très bien appris le français, l'anglais et l'italien. Il les parlait, ces langues-là, avec beaucoup d'aisance. Mais il trouvait qu'il y avait bien des heures perdues dans le sommeil, lui. Alors il lui arrivait souvent de se coucher sur la dure, sur des planches, tout habillé, puis de reprendre dès les 3 heures du matin son travail, à peine interrompu, pour ainsi dire. Il y a 18 ans, Moreno a déjà rapporté aux examens des succès inconnus jusqu'à ce jour à la célèbre université de Quito. Et le nom de Gabriel Garcia Moreno est sur toutes les lèvres. Toute la ville de Quito parle de cet étudiant prodigieux. Plus d'une fois, il soutient en public des thèses, parce qu'il y avait des débats, hein. Et il sait faire preuve d'une grande érudition. Il y a une grande logique dans son raisonnement, une finesse, une vivacité de répartie aussi. Puis, il y a chez lui une espèce de laconisme incisif et pénétrant. Hein? Et il exprime toute la loyauté de son cœur, la franchise de son caractère. Il gagne le débat. L'avenir lui sourit donc. Garcia Moreno se croit un moment appelé au sacerdoce. Il porte la soutane durant quelques mois. Il reçoit même la tonsure des mains de l'évêque de Guayaquil, sa ville natale. mais Garcia Moreno opte pour le droit. Il faut dire que l'Église était persécutée à cette époque, très fortement, dans les républiques. Et surtout dans la République de l'Équateur, elle était en but au sarcasme et aux calomnies de ce qu'on appelle la franc-maçonnerie. Elle existait à l'époque, elle était très dure, la franc-maçonnerie, au 19e siècle. En 1844, à 23 ans, bien, Garcia Moreno est reçu docteur en droit. Il s'inscrit comme avocat stagiaire au bureau de Quito. Tout le monde apprécie, puis même admire, ce jeune homme. Qui paraît bien, d'ailleurs, d'une physionomie agréable. Il est grand, un regard perçant, limpide. On peut dire un regard franc. Bon, puis il a des manières distinguées. Il a un caractère sympathique aussi. Sa conversation est plutôt brillante, aimable. Il était le type accompli du parfait gentleman, dirait-on, hein? Alors, les beaux salons là, de la grande ville se le disputent, on l'invite un peu partout. Il accepte les invitations. Et puis, il se laisse entraîner de bonne grâce. Et, finalement, Garcia Moreno comprend le danger de tout ça. Il sent qu'il perd son temps. Il est en train de sombrer. Il découvre la vanité puis de tous ses honneurs humains. Il se ressaisit avec fermeté puis s'impose un programme de vie auquel il ne dérogera plus désormais. Et c'est assez extraordinaire. Il dit « La vie est trop courte pour en perdre un seul instant en futilité. » Il est déjà sur la voie de la sainteté. Quand on dit ça, que dans le moment présent, Dieu est là et qu'on n'a pas le droit de le perdre, c'est très, très, très important pour commencer à rencontrer Jésus-Christ et à vivre de lui. Il ne s'est pas incarné pour rien, Jésus-Christ. Il s'est incarné pour vivre en nous. Et pour prouver à son entourage que cette résolution n'a pas été prise à la légère, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enferme chez lui, il se fait raser la tête, comme un moine. Alors, il peut plus sortir de chez lui, parce qu'à cette époque-là, on ne sortait pas la tête rasée. Il disait, « Ô mes livres, vous êtes mes amis fidèles et sincères, et vous êtes mon salut. Je ne vous quitterai pas, au moins pendant 6 semaines. » Alors, au bout de ce temps, il reprend toute sa liberté. Et pour lui, être avocat, c'est pas embrouiller les causes, c'est les éclairer les causes, c'était défendre les causes justes et non celles dont la justice est contestable. Alors, un jour, que le président du barreau veut faire violence, on peut dire, à la conscience de ce jeune et grand chrétien, puis à son honnêteté, il lui soumet une cause nettement injuste. Garcia Moreno lui répond, « Monsieur le Président, sachez qu'il me serait plus facile d'assassiner quelqu'un que de défendre un assassin. » Et à partir de ce jour, cet avocat extraordinaire, ce saint avocat, Gabriel Garcia Moreno, il n'est pas encore saint, mais il va le devenir, mais il brise sa carrière. Et évidemment qu'il ne réapparaît plus au barreau. Je lisais ce matin très tôt, dans l'Église de Montréal, cette revue du diocèse de Montréal qui est publiée à l'archevêché, l'éditorial de l'abbé Yvan Desrochers qui dirige cette revue, il dit que le synode d'Amérique a pris fin vendredi le 13 décembre. Synode d'Amérique, hein? Mais affirmer que le synode d'Amérique est terminé dans notre monde, appelé à la sainteté, ce n'est peut-être pas s'exprimer comme on doit le faire. On ne peut dire, par exemple, que la pauvreté que connaissent plusieurs pays d'Amérique est loin d'être surmontée. Nous ne pouvons non plus affirmer que nos comportements sont à la pointe des vertus évangéliques. Il ajoute, le synode n'est pas terminé dans nos vies. La conversion au Christ est en changement de cœur qui ne touchera pas seulement nos vies individuelles, mais influencera aussi notre société. Vous avez vu qu'hier au Chiapas, une quarantaine de gens ont été assassinés de façon sauvage par des forces qui semblent être gouvernementales. Vous voyez comme c'est épouvantable. Et lui, Garcia Moreno, a lutté contre ça. Alors, il a perdu sa charge, pour ainsi dire, d'avocat. Sa carrière d'avocat est déjà terminée très jeune. 2 ans plus tard, en 1846, Moreno épouse la señora Doña Rosa Ascazubi, sœur de 2 de ses amis, dont les idées et les aspirations s'accordent avec les siennes. Il épouse une femme avec laquelle il va s'entendre très, très bien. Ils ont 2 enfants, un petit garçon qu'il appelle Gabriel encore, et une petite fille, Monique, qui va mourir à 4 ans. Son grand talent d'écrivain fait ouvrir les yeux à ses admirateurs qui, un jour, le presse d'écrire l'histoire de l'Équateur, et il répond, c'est très bien, au lieu de l'écrire, il vaut mieux la faire. Voilà la réponse de quelqu'un qui a de l'humour, parce qu'il le fait avec un sourire aux lèvres, mais c'est la réponse aussi de quelqu'un qui veut agir. Les saints, ça agit. Un saint ne se contente pas de rêver. Quelqu'un qui reçoit le Christ qui naît cette nuit dans son cœur agit. Et Garcia Moreno, c'est ce qu'il a fait. En 1846, il descend résolument dans l'arène politique. Il veut abattre les tyrans, les persécuteurs de l'Église et de l'État. Et pour mieux servir son pays et l'Église, il se fait journaliste. Journaliste plein de verve et d'à-propos, hein, il fonde tour à tour le fouet, le vengeur et El Diablo. Ce sont des journaux dans lesquels, c'est des journaux dans lesquels il fustige le président Roca, qui est absolument corrompu, puis qui est même corrupteur. Il démasque les desseins diaboliques du président Flores, le triste successeur de ce Roca. À quelque temps de là, Garcia Moreno est en Europe, où il visite successivement l'Angleterre, la France, l'Allemagne. C'est pas pour lui un voyage de plaisir, mais bien une tournée d'études. D'études approfondies de la constitution politique de ces pays, puis il en tire cette conclusion. Il le dit, et il dit ce qu'il résume sa vie. Écoutez bien, j'ai jamais entendu un homme politique parler comme ça de ma vie. Je suis sûr qu'il y en a eu. Jésus-Christ est l'unique sauveur des peuples comme des individus. Un État sans religion est irrémédiablement voué au sabre d'un despote ou au poignard des anarchistes. Je dirais aux malversations des profiteurs, à ceux qui en accumulent l'argent dans des banques en Suisse ou ailleurs, à toute cette racaille. Rentrant d'Europe, il trouve à Panama des religieux qui ont été chassés de la Nouvelle-Grenade, c'est-à-dire de la Colombie. On appelait ça la Nouvelle-Grenade dans le temps, pays qui est juste au nord de l'Équateur. Pourquoi ils sont chassés? Parce qu'ils y avaient fondé des missions prospères, des collèges florissants. Puis ces succès, ben, ça déplaisait aux loges maçonniques. Ému au récit des épreuves de ces religieux, Garcia Moreno ramène à Quito ses exilés. Et sur sa demande, le président de la République, heureusement, promulgue un décret restituant à la Compagnie de Jésus tous les biens dont on l'a spolié, puis le peuple accueille avec joie ses missionnaires. Et cette mesure de clémence, comment ça se fait qu'il la prend? Ça déchaîne la colère des ennemis de l'Église, d'abord. Mais de Dieu pamphlets circulent sur le compte des protégés de Moreno, en plus de ça, qui les défend dans un opuscule resté célèbre. Il a défendu les Jésuites avec un courage de feu. En voici quelques passages. Il dit « Chrétien et patriote, je ne puis garder le silence sur une question qui intéresse au plus haut degré la religion et la patrie, car je suis catholique et fier de l'être. J'aime ma patrie avec passion et j'estime que c'est un devoir de travailler à son bonheur. La tyrannie me révolte. Oui, la tyrannie me révolte partout où je la rencontre. Vous voulez ébranler l'Église avant de l'opprimer? Eh bien, la guerre est déclarée, non pas aux religieux, mais aux sacerdoces. Et à la foi catholique, et on proscrira les jésuites, puis le clergé séculier, puis tous les vrais enfants de l'Église, c'est ce qui arrivera. Et ainsi sera creusé l'abîme où s'engloutiront la Nouvelle-Grenade, c'est-à-dire la Colombie, et l'Équateur, et toutes les républiques catholiques. » Il n'y va pas de même ordre. Hein? Dans un nouveau journal, La Nation, si vous voulez, il attaque si violemment le gouvernement que Urbina, l'homme le plus sectaire et le plus sanguinaire des présidents de l'Équateur, parce que les gouvernements changent continuellement là-bas, eh bien, Urbina prononce contre son directeur la peine de la déportation. Mais Moreno, qui, depuis l'âge de 9 ans, n'a plus tremblé devant rien ni devant personne, n'abandonne pas pour si peu son poste de combat et continue de démasquer les bassesses, les turpitudes des dirigeants de son pays. Et puis, il veut imiter Jésus-Christ. Il se rend sur la place publique. Il se rend librement entre les mains de ses ennemis. Il est appréhendé avec trois de ses amis. Garcia Moreno est conduit sous bonne escorte jusqu'à la frontière de la Colombie, là, de la Nouvelle-Grenade. Mais à peine la borne des deux républiques est-elle franchie, là, que il trompe la vigilance de ses gardiens, puis il gagne la montagne à la faveur de la nuit, puis il rentre déguisé à Quito, bien décidé à poursuivre la lutte. Hélas, Il n'y trouve pas de gens assez courageux pour résister avec lui. Il doit s'embarquer pour le Pérou, au sud, en remettant plus tard la revanche. Il lui faut donc apprendre bien des choses encore. Et ces choses, c'est à Paris qu'il va les apprendre. Et de fait, c'est bien à Paris que nous allons retrouver, en 1854, cet homme si courageux. Il se fait initier aux méthodes d'enseignement à tous les degrés, à l'organisation militaire, au progrès même de l'industrie. Il juge toutes ces choses selon sa foi et sa raison et le simple bon sens. Il étudie surtout les principes du droit chrétien. Et cette philosophie de l'histoire qui fait découvrir quoi? Qui fait découvrir le gouvernement de Dieu dans les choses humaines. Il comprend que le peuple de Dieu doit être gouverné chrétiennement pour avoir la liberté. À quoi sert la liberté si elle n'est pas animée par l'Évangile? Elle risque de n'être que de l'esclavage ou de l'anarchie. Il comprend aussi que le peuple de Dieu doit être gouverné comme ça pour avoir le progrès aussi, puis une véritable civilisation. Et l'étude, sous toutes ses formes, a toujours captivé l'esprit puis le cœur du futur président Garcia Moreno, président de l'Équateur. Il s'y est adonné avec passion. Ce goût passionné pour l'étude, sans causer de préjudice à sa foi, vraiment, l'a cependant quelque peu détourné de ses pratiques religieuses, et un jour, il y prend parti par des étudiants qui veulent se moquer de lui, qu'il tourne en ridicule la religion. Alors, il est à Paris, hein, alors il démolit un à un leur sophisme, il parle très bien français. Et l'un de ces jeunes fanfarons, on peut dire, lui rit au nez en disant, « Pardon, cher ami, mais cette religion catholique si belle que vous prêchez et que vous défendez avec tant de chaleur, il me semble m'être rendu compte que vous en négligez un peu la pratique. Alors dites-nous, Moreno, depuis quand vous êtes-vous confessé? » Cette question a assez inattendu le pique au vif. Un instant, il reste interloqué, il baisse la tête, mais reprenant aussitôt ses esprits, il fixe son interlocuteur dans le blanc des yeux, puis il lui répond du tac au tac. « Oui, oui, vous m'opposez là un argument personnel, qui peut vous paraître excellent aujourd'hui, mais qui ne vaudra plus rien demain, je vous en donne ma parole. » Et il tient loyalement sa parole, lui. Car dès le soir même, il va s'agenouiller au pied d'un prêtre, il confesse sa négligence, sa tiédeur. C'est ça qui tue le catholicisme, la négligence, la tiédeur. Hein? « Je vomirai les tièdes, dit Dieu. Hein? » Et le lendemain, il assiste à la messe à l'église Saint-Sulpice, il y communie avec ferveur. Une grande ferveur. Et jusqu'à sa mort, ses pratiques religieuses seront sa force et sa consolation. Pendant les 2 années que Garcia Moreno passe à Paris, bien des événements se sont déroulés dans la République équatorienne, entre autres la fin de la présidence du fameux Urbina et l'élection de Robles au fauteuil présidentiel. Et là, les vrais patriotes profitent de l'enivrement du nouvel élu pour demander une faveur. De joyeux avènements, c'est le rappel de Garcia Moreno. Et chose surprenante, cette grâce est aussitôt accordée par le président Robles, qui croyait par cette mesure de clémence rallier sa cause à sa cause des conservateurs. Et vous allez voir qu'est-ce que va faire Garcia Moreno de retour en Équateur. C'est comme une incarnation vraiment de l'Évangile. Être chrétien, c'est pas plate. Être juste. Regardez les gens qui s'occupent des pauvres ces jours-ci, qui font toutes sortes de choses, ont le sourire aux lèvres tellement ils sont heureux. La justice rend joyeux. Que Dieu se lève, dit cet introïte, et que ses ennemis se dispersent, que ceux qui le haïssent fuient devant lui. Oui, parce que quand on met Dieu dans sa vie, c'est la sérénité, la paix. C'est un bel introïte, ça. Alors, qu'est-ce qui arrive à Garcia Moreno? Bien, il est rappelé en Équateur. Le président, le nouveau président, accepte qu'il revienne. Alors, Garcia Moreno revient, puis la capitale est heureuse de le revoir dans ses murs. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On le choisit pour recteur de son université, le Quito. C'est une charge bien lourde pour Moreno, qui n'a que 30 ans. Tout est à refaire dans cette université. Mais pour un homme rompu aux travaux difficiles, puis aux tâches vraiment ardues, là, cette fonction, qui pouvait n'être que purement honorifique, ne le ferait pas du tout. Lui, ça sera pas honorifique, il se met aussitôt à l'œuvre. C'est un chrétien convaincu. Alors on voit les étudiants suivre les cours avec un entrain qu'on ne reconnaissait pas. Et le nouveau recteur stimule autant le zèle des élèves que l'ardeur des professeurs. Il préside aux examens, mais il n'y admet que des candidats instruits et travailleurs. Et le nouveau recteur dote l'université de matériel onéreux qu'il fait venir d'Europe. Il est vrai, mais c'est jugé indispensable pour atteindre le but qu'il se propose. Il veut établir des laboratoires de chimie, etc. Et lui, qui a toujours aimé les sciences, il rétablit cette faculté des sciences qui a été supprimée par ses prédécesseurs. Et même, il se charge d'en donner les cours, et ses leçons de chimie sont d'un intérêt particulier en raison des expériences publiques qu'il y ajoutait, n'est-ce pas, des expériences de chimie, de physique même. Et il a la parole facile, entraînante, il a une mémoire prodigieuse aussi, que nul ne trouve jamais en défaut. Il a un ascendant merveilleux, d'ailleurs, sur les jeunes gens. Bref, il a tout pour gagner, non seulement la sympathie des étudiants, mais leur estime, puis leur admiration. Évidemment qu'avec un tel maître, l'enseignement atteint bien vite un niveau remarquable. Et vers la fin de 1857, en vue de la session du Congrès qui va s'ouvrir au début de l'année nouvelle, eh bien, il y a des élections sénatoriales qui doivent avoir lieu. Bon, car on élit au Sénat. Ici, on s'est nommé, mais dans ces pays-là, c'est élu. Le recteur de l'université, sur les instances de ses nombreux amis, se décide finalement à proposer son nom pour devenir sénateur. Et le jour des élections, il y a évidemment des bagarres. Mais comme en Amérique du Sud, des bagarres, ça va loin. Mais dans l'une comme dans l'autre camp, on relève des blessés et même des tués. Triste. Mais le triomphe reste aux bons députés, heureusement grâce à l'influence de leur chef Garcia Moreno. Alors sénateur, il s'attaque à toutes les lois contraires aux intérêts de la religion puis au vrai bonheur du peuple. Il exige et obtient l'abolition de certains impôts. Son exigence va si loin qu'il fait voter une loi de dissolution des sociétés secrètes et même des loges maçonniques et des autres associations réprouvées par l'Église. Il est un peu strict, mais il faut réformer l'État. Il faut qu'il aille peut-être un peu trop loin. Et justement, ça en est trop, parce que Bolivar, Simon Bolivar, a eu maille à partir, lui, auparavant, avec cet ennemi mortel qui veut toujours profiter du pouvoir. Et cet ennemi mortel déclenche une guerre à mort contre celui qui a osé exiger sa disparition. Et dès lors, Garcia Moreno n'échappera pas à sa vengeance. Son arrestation est résolue, elle est même ordonnée. Mais heureusement, il échappe aux assassins, grâce à quoi? C'est les jeunes qui lui servent de bouclier. Le 1er mai 1859, les jeunes gens de Quito, appuyés de tous les bons citoyens, s'emparent des casernes et prononcent, au cri enthousiaste du peuple, la déchéance des dictateurs. Puis ils nomment une sorte de triumvirat qui est composé de Gomez de la Torre, de Carrion et de Garcia Moreno. C'est un gouvernement provisoire qui est donc constitué, un triumvirat. Et cet infatigable défenseur de sa patrie, l'Équateur, surmonte mille difficultés. Il brave tous les obstacles dont sa route est semée. Là, il arrive à Quito, où sans perdre un seul instant, il se met à l'œuvre avec ce programme bien digne de lui. Que tous les citoyens s'unissent pour créer enfin, dit-il, des institutions civilisatrices et une république digne de ce nom. Et son premier soin est de refaire une armée capable de résister aux troupes du général Urbina, le fameux Urbina, qui était déchu de ses pouvoirs. Et malheureusement, il ne regroupe que 800 hommes. C'est avec cette poignée de soldats bien mal équipés puis peu aguerris. Hein. Ça rappelle les événements de 1837-39 ici. Hein. C'est avec ces quelques soldats qu'il ose attaquer les troupes qui sont retranchées de façon solide, les troupes adverses. Et malgré les prodiges de courage dont font preuve Garcia Moreno et ses partisans, bien, la défaite leur est cuisante. Alors Garcia Moreno, qui en tant que chef du gouvernement provisoire, vient de décréter la déchéance du président Urbina en même temps que son exil, accueille avec joie les volontaires de toutes les provinces désireux de se ranger sous ses ordres. On crie « Garcia Moreno !» et ce nom seul galvanise le peuple. Son zèle est inlassable. Ses talents, ses valeurs militaires excèdent partout le courage et la bravoure. Et au prix de mille dangers, ben Moreno ne recule devant aucun sacrifice. Il veut identifier son cœur au cœur de Jésus. Il a une très grande dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Il va même consacrer l'Équateur au Sacré-Cœur de Jésus. Il travaille sans relâche à relever l'équateur. Il a ça jusqu'au fond de son cœur. Les riches propriétaires, heureusement, offrent leurs biens. Les jeunes gens réclament des armes et s'enroulent volontairement sous le drapeau de, comme ils disent, celui qui incarne à leurs yeux la patrie en danger. Alors, avec de tels hommes, animés d'un courage invincible, avec un soldat de cette trempe, avec un chef aussi brave et aussi remarquable, la patrie va être sauvée, l'Équateur va être libéré, et après des luttes sanglantes et des combats difficiles, Guayaquil, sa ville natale, est prise le 24 mai 1860, en la fête de Notre-Dame de la Merci. Vous savez qu'il a été formé dans son jeune âge par un religieux de Notre-Dame de la Merci. Dès les premiers jours de sa présidence, le nouvel élu, Garcia Moreno, prend sa tâche au sérieux. Il déclare « Le pouvoir est une charge imposante dont Dieu et la nation demandent un compte exact. Il est un instrument, non de jouissance, mais de bienfaisance. Si tu, nos dirigeants, avaient ça vraiment au cœur, comme je sais qu'il y en a quelques-uns qui l'ont au cœur, ils le savent que ce n'est pas un instrument de jouissance, mais de bienfaisance. Et c'est très dur de diriger un pays. Vous priez pour certains de nos dirigeants qui ont le cœur noble. Le souci obsédant de Garcia Moreno, c'est de choisir à tous les degrés puis dans toutes les administrations des hommes intelligents, des hommes intègres, dévoués et laborieux. Aujourd'hui, on dirait des hommes et des femmes. Il réorganise l'armée, dresse lui-même le règlement que les chefs et les subalternes ont à observer avec la plus grande ponctualité. Et pour donner une instruction saine et forte aux générations à venir de l'Équateur, le nouveau président fait venir toutes les congrégations d'hommes, des congrégations religieuses, d'hommes et de femmes, qui sont renommés pour leur succès dans la façon d'éduquer la jeunesse en France et pour soulager les indigents et les malades aussi. Alors, il fait appel à celles qui se dévouent aux œuvres de miséricorde dans les hôpitaux, les asiles et même les prisons. Puis enfin, le fameux projet de construire une route qui relie Quito à Guayaquil, qui n'existait pas, est mis à exécution. Mais ce n'est là qu'une partie de ce vaste programme que Garcia Moreno veut et doit réaliser. Ce qui importe avant tout, ce qui doit, à ses yeux, consolider toutes les réformes et assurer l'avenir de l'Équateur, c'est quoi? C'est de faire observer partout, et par tous les sujets, la loi divine, la loi de Dieu, et de faire reconnaître hautement les droits de Dieu sur les peuples et la liberté de son Église. L'heure de passer du provisoire au définitif est arrivée. On est en juillet 1860. Alors il s'agit de nommer à la présidence un homme capable de mener le pays vers la gloire, et Garcia Moreno, il a donné des preuves tangibles de grande capacité, est jugé par tous les vrais patriotes seuls à même d'arracher l'Équateur aux griffes des profiteurs et de reprendre l'œuvre de la civilisation chrétienne. Et son nom est déjà acclamé partout, son élection est assurée, et au cri de « Viva Garcia Moreno !» entouré des pères de famille, des notables de la cité, escorté par l'armée qui gagne à sa cause, il fait son entrée dans sa ville de Guayaquil. Bonne goutte de sang est versée. C'est pour Garcia Moreno une des plus grandes joies de sa vie, et le signe évident de la protection de Dieu. Il dit « Notre gratitude doit s'élever jusqu'au ciel. Ne me félicitez pas. C'est Dieu qui nous a sauvés avec une promptitude inouïe des calamités dont nous étions menacés. Alors à lui seul, amour, louange et gloire. » Quel grand chrétien, c'est rare qu'on voit ça chez des hommes politiques, je n'en reviens pas. Alors, me souviens, dans mon jeune temps, on parlait chez moi de Garcia Moreno, Garcia Moreno, Garcia Moreno. Ma mère nous parlait de ça, mon père aussi, mes frères. Mais je n'avais jamais lu vraiment sa vie, si je l'ai fait ces jours derniers, et je suis bouleversé. Arrivé provisoirement au pouvoir, Moreno se met à l'œuvre sans délai. Après avoir jeté les fondements d'une constitution profondément chrétienne, eh bien, Garcia Moreno ne songe plus qu'à se retiré, ainsi qu'il l'a expressément déclaré, mais le peuple, lui, puis la magistrature, puis l'armée, ils n'entendent pas ça de cette oreille. Le tout n'est pas de créer une constitution, il faut l'implanter, il faut la consolider dans le pays, il faut la garder de toute tentative de destruction. Et pour la nation de l'Équateur tout entière, eh bien, Garcia Moreno est l'homme providentiel dont l'Équateur a besoin pour assurer le triomphe de la République chrétienne. Et malgré toutes les protestations que soulève le grand homme d'État pour décliner la charge de président, mais le 29 juillet 1869, la Convention se réunit dans séance extraordinaire dans l'église des Jésuites à Quito. Et à l'unanimité, moins une, on proclame Garcia Moreno président de la République de l'Équateur. Mais il s'y oppose encore énergiquement, mais l'Assemblée conventionnelle juge bon de ne plus supplier, mais d'ordonner. Alors cette fois, Moreno est vaincu. Il reconnaît dans la voix du peuple qu'il appelle au pouvoir la voix de Dieu lui-même. Comme on dit, vous connaissez ça, vox populi, vox Dei. Alors le lendemain, le 30 juillet, d'une voix ferme, il prête le serment en disant « Je jure par Dieu notre Seigneur et par les saints évangiles de remplir fidèlement ma charge de président de la République, de professer la religion catholique, apostolique et romaine, de conserver l'intégrité et l'indépendance de l'État, d'observer et de faire observer la Constitution et les lois. Si je tiens parole, que Dieu soit mon aide et ma défense, sinon que Dieu et la patrie soient mes juges. » Et Garcia Moreno n'a d'autre ambition que celle d'être un vrai disciple du Christ et de conformer sa vie aux enseignements de l'Évangile. Il dit « On m'appellera fanatique, jésuite peut-être parce que j'ai conservé mes loisirs à écrire cette défense. » Et ce n'est pas si l'allusion au fameux pamphlet qu'il rédige en 1850 en faveur de la Compagnie Jésus, je vous en ai lu un extrait tout à l'heure. « Mais de cela, dit-il, je m'en moque, je suis catholique et fier de l'être, bien que je ne puisse me compter au nombre des chrétiens fervents. » Alors l'Église catholique, Moreno l'aime. Il l'aime comment? Comme un enfant aime sa mère. Et il va puiser dans les enseignements de l'Église ses principes avant d'édicter des lois. Des lois toujours empreintes d'ailleurs d'un caractère franchement religieux. Et en 1873, il consacre solennellement la République équatorienne au cœur sacré de Jésus. Et du nord au sud et de l'est à l'ouest, tous les sujets de la jeune République sont unis à leur chef, qui revêtit de ses insignes présidentiels, accompagné de tous les membres de son gouvernement, des magistrats et des officiers, s'est rendu à la cathédrale de Quito pour consacrer le pays au Christ, son Dieu et son roi. Et cette même année, 1873, la célèbre ville de Quito reçoit dans ses murs les rédempteuristes désignés pour y prêcher la mission. Ils y convertissent beaucoup de monde. Garcia Moreno ne se contente pas seulement d'être chrétien. Il veut être un peu religieux, laïque. Il devient tertiaire de Saint-François. Les montagnes de l'Équateur, tout comme les montagnes de l'Ombrie, au temps de Saint-François, sont infestées de brigands. Bien, il réussit à faire arrêter le fameux brigand, le principal. Et le prisonnier est admis devant lui et s'attend à une sentence de mort. Mais cependant, tout ce qu'il reçoit comme sentence, c'est de prouver qu'il veut vraiment changer de vie et qu'il doit se présenter tous les matins et tous les soirs à la présidence et de s'entretenir chaque jour durant une heure avec un religieux capucin, son ami. Eh bien, croyez-le, croyez-le pas, la bonté du président Garcia Moreno remue tellement le cœur de ce bandit qu'il se convertit. Moreno, témoin de la sincérité de sa conversion, en fait le chef, un des chefs de la police, pas le chef, mais un des chefs, en lui disant « Je vous charge d'amener vos anciens complices afin d'en faire des honnêtes gens comme vous. » Chose étonnante, tout l'Équateur va bientôt être débarrassé de tous ces brigands. Alors que l'on ne s'imagine pas cependant que Garcia Moreno était saint d'El Berceau, c'était un homme comme nous. Il a eu à lutter toute sa vie pour combattre ses défauts et jusqu'à sa mort, il a eu à se dominer et à se vaincre pour faire vivre Jésus-Christ au fond de lui-même et pour l'incarner. Oui, nous sommes prêts pour l'éternité et même les laïcs, nous avons un sacerdoce par notre baptême, qui n'est pas un sacerdoce ministériel. Et c'est ce à quoi nous appelait le pape en s'adressant des jeunes le 1er avril. Je dis ça parce que ce jeune Garcia Moreno a mis ça en pratique toute sa vie. « Jeune, apprenez à connaître Jésus-Christ, dit le pape. Soyez les courageux missionnaires de son évangile. Allez dans le monde entier, allez à la rencontre du Christ et n'ayez pas peur de ce qu'il pourra vous demander. » Garcia Moreno n'a pas eu peur. Il s'était dressé un règlement de vie auquel il ne dérogeait jamais. Imitation de Jésus-Christ, ce livre que je crois être très important et qu'il portait toujours sur lui. Je vous ai déjà fait une émission sur l'imitation de Jésus-Christ. Il portait toujours sur lui ce livre et que le jour de sa mort, on va retrouver sur son corps ensanglanté, nous a livré les résolutions qu'il avait écrites de sa main. Je vous en lis quelques-unes. Tous les matins, je ferai oraison, demandant d'une façon particulière la vertu d'humilité. Je prendrai soin de me conserver dans la sainte présence de Dieu, surtout dans les conversations, afin de ne pas excéder en parole. J'offrirai souvent mon cœur à Dieu avant d'entreprendre quoi que ce soit. J'ajouterai dans les tentations, que penserai-je de tout cela à l'heure de mon agonie? Je ferai mon examen général de conscience tous les soirs, je me confesserai chaque semaine. Sa devise, c'était « Dios no muere », « Dieu ne meurt pas ». C'est sa devise, une devise merveilleuse, et ses paroles seront les dernières qui vont sortir de sa bouche quand il sera assassiné. « L'injure, disait-il, c'est mon salaire. » Il y avait beaucoup d'ennemis, évidemment. Quand on est catholique, on a des ennemis. « Si mes ennemis me haïssent pour une faute commise, je les remercie, et je tâcherai de me corriger, mais s'ils détestent en moi ma fidélité à mon Dieu, je les remercie encore, et je tâcherai toujours de mériter leur haine. » Eh bien, cette haine, Moreno la pressent, évidemment. Il ira un jour jusqu'à l'assassinat. Cette haine ira jusqu'à l'assassinat. Il n'hésite pas à écrire au pape Pie IX, « Aujourd'hui que l'éloge des pays voisins vise à m'assassiner, j'ai plus que jamais besoin de la protection divine afin de vivre et de mourir pour la défense de notre religion et de cette république de l'Équateur que Dieu m'appelle à gouverner. Quel plus grand bonheur peut-il m'arriver, Saint-Père, que de me voir détesté, calomnié pour l'amour de notre Rédempteur? » Alors son désir de mourir va être exaucé. Il dit même « Je vais être assassiné ». C'est ce qu'il dit à un ami intime l'avant-veille de sa mort. Or, le 6 août 1875, en la fête de la Transfiguration, vous savez, quand le Christ s'est transfiguré sur le mont Tabor et qu'il a manifesté sa divinité à trois de ses apôtres, eh bien, en la fête de la Transfiguration de notre Seigneur, et le premier vendredi du mois, plus de simple, mais Garcia Moreno assiste à la messe de 6 heures à l'église Saint-Dominique, prolonge son action de grâce jusque vers 8 heures. Alors, ses ennemis qui l'attendent depuis quelques jours, ils épient toutes ses démarches. La présence prolongée du président à l'église est impatiente. Ils n'osent pas trop rester comme ça devant la cathédrale, ils se dispersent la rage au cœur. Moreno, ignorant tout du complot qui se trame contre lui à cette heure, sort quelques instants après puis il rentre chez lui, mais la dernière main a un travail qu'il doit présenter à ses ministres. Vers 1 heure de l'après-midi, il quitte sa maison après son repas pour se rendre au palais du gouvernement. En passant devant la cathédrale, il entre pour adorer le Saint-Sacrement exposé. Ses meurtriers le guettent de la fenêtre d'un café voisin. Son oraison se fait encore un peu longue à leur gré. Et le chef de la bande, un de ses assistants, le chef de la bande plutôt envoie un de ses assistants vers le président pour lui dire qu'une affaire urgente l'attend au palais. Et Moreno sort du sanctuaire puis se dirige vers le siège du gouvernement qui est tout près. Au moment où il gravit les marches du portique extérieur, là, avec les grandes colonnes, un des bandits bondit sur lui et lui assène un coup violent de poignard dans l'épaule. Il s'appelle Rayo. Et sans perdre un instant, ce Rayo lui enfonce le poignard dans la tête. Il sectionne presque entièrement la main droite, taillade horriblement le bras gauche. Je m'excuse de dire ça, mais c'est un martyr qui s'est identifié au Christ, qui va mourir martyr lui aussi. Celui que nous fêtons ce soir va mourir martyr, mais sera ressuscité. Alors, les autres bourreaux déchargent leurs armes, à bout portant sur leurs victimes, qui tombent du péristyle sur la place publique, d'une hauteur de 4 à 5 mètres. À la vue de ce corps tout sanglant, étendu sur le sol et sans mouvement, eh bien, Rayo, plus féroce qu'un fauve, se précipite sur lui, puis une dernière fois, il lui plonge son poignard dans le cœur en hurlant « Meurs, bourreau de la liberté !» Et là, Garcia Moreno, martyr, fait un suprême effort et ses lèvres s'en trouvent. Il murmure, dans un dernier élan de foi et d'invincible espérance, « Dios no muere !» Dieu ne meurt pas. Les bandits prennent la fuite. Un prêtre, averti, se porte auprès du corps ensanglanté de son président. Et il lui demande de pardonner à ses bourreaux. Garcia Moreno fait un signe affirmatif de la tête. Et la main du prêtre se lève alors pour une dernière absolution. Garcia Moreno meurt donc à 53 ans. À côté de l'Imitation de Jésus-Christ, on trouve sur le corps de Garcia Moreno un petit agenda dans lequel il a écrit ce jour-là, vraisemblablement devant le Saint-Sacrement exposé à la cathédrale, cette prière. Priez-la avec moi. Prions tous avec Garcia Moreno. Mon Seigneur Jésus-Christ, donnez-moi l'amour et l'humilité et faites-moi connaître ce que je dois faire aujourd'hui pour votre service. » Le peuple de l'Équateur pleure son guide et son chef, et le jour des funérailles, on a vu défiler dans les rues de Quito, tendues de noir, une foule consternée se rendant à la cathédrale pour saluer une dernière fois le père de la patrie. Et devant le cadavre du président exposé à la vénération publique, en uniforme de général, la tête découverte, les fidèles ne peuvent retenir leurs larmes. Mais l'émotion est à son comble quand le doyen de la cathédrale, à la fin de l'éloge funèbre, se tourne vers le catafalque en s'écriant comme on faisait à l'époque. C'est une autre époque, il y a plus de 100 ans. Garcia Moreno, tes yeux ne voient plus nos larmes. Tes oreilles n'entendent plus les lamentations de ton peuple. Ton cœur ne bat plus dans ta poitrine, mais ton âme nous comprend. N'abandonne pas ton pays à l'anarchie.